Sokɛ ka ɲi siri bɔlɔ la kayala
musow ka fo
ka wale ɲumandon
musow ka fo
ka bonyaɲa sɔrɔ musow ka bɛ yaki
walekɛ
musow
ka
fa fama bonyaɲa sɔrɔ.
Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Aujourd'hui, dernier volet de notre conversation avec Jean-Pierre Rospart, scientifique, neurobiologiste, mais aussi biophysicien. Et c'est d'ailleurs la question qui nous occupe aujourd'hui. Un ami du penseur Aimé Michel, un penseur né en 1919 et mort en 1992 dans pratiquement un total anonymat. Aimé Michel fut diplômé en psychologie puis en philosophie et toute sa vie, il s'est passionné pour la recherche scientifique, avec notamment une passion pour la physique, l'éthologie, l'étude des comportements animaux, la conquête spatiale, la parapsychologie, mais également l'ufologie, l'étude des ovnis. Auteur d'une vingtaine de livres touchant à tous ces sujets, mais aussi d'une œuvre épistolaire qu'il avait mis en contact avec les esprits les plus brillants de son siècle, Aimé Michel s'était forgé la conviction suivante: où qu'elle se déploie dans l'univers, la vie marche vers une évolution infinie et surtout vers la conscience. La vie ne doit rien au hasard, elle est l'expression d'une pensée. Nous en étions là, nous retrouvons Jean-Pierre Rospart.
Pour revenir à cette idée que la nature tout entière est l'expression d'une pensée et d'un projet, idée évidemment qui est très combattue par les matérialistes. Beaucoup de prix Nobel ne sont pas du tout dans cette vision des choses, hein, ça c'est très clair, mais lui-même ne cachait nullement ça. Mais il disait, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment fidèles finalement à ce que nous révèle la science, parce que si on le regarde les choses d'une manière très posée, très méthodique, et en s'en tenant aux faits, c'est bien ce qu'on voit. C'est-à-dire, on part simplement à un moment, l'univers est composé uniquement, un peu après le Big Bang, uniquement d'hydrogène et d'hélium, et progressivement, et c'est ce que décrit finalement la science contemporaine, toutes les structures de l'univers se réalisent progressivement, les atomes se complexifient, des environnements propre à la vie se crée, en particulier, on n'en est pas sûr dans l'univers actuel, mais au moins sur la Terre, c'est si bien ce qui s'est passé. La vie est apparue, s'est complexifiée de manière progressive. Alors, beaucoup de savants, comme Gould, tentent de minimiser cela de toutes les façons possibles, en disant que c'est pur hasard, que tout cela n'a pas de signification. Mais si on s'en tient à une description purement factuelle, il est clair que les données scientifiques les plus solides ne leur apportent pas vraiment de caution et qu'il faut reconnaître que les choses se sont passées ainsi.
Ouais. Alors,
tout à fait étonnante.
J'ai profité de vos lumières pour élargir le débat. Je le redis, vous êtes donc vous-même un scientifique, neurobiologiste et directeur de recherche. Justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui chez les scientifiques deux visions qui s'affrontent, une vision, on va dire, de scientifiques qui pensent que l'univers est intelligent, on veut dire qu'il y a un dessein derrière tout ça? Et puis, de l'autre côté, des gens qui pensent que c'est pur hasard. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a deux visions qui s'affrontent?
Bon, écoutez, les deux visions s'affrontent depuis plusieurs siècles. Donc, c'est pas...
C'est toujours le même rapport de force, je veux dire.
Alors, ça, c'est très difficile à dire. J'ai quand même l'impression, d'après les divers sondages qui peuvent être effectués, en particulier chez les scientifiques célèbres, chez les académiciens, etc., que c'est toujours la vision matérialiste qui est très largement dominante, hein. C'est-à-dire d'une vision qui récuse toute notion de plan, de projet, qui récuse même l'existence d'une conscience qui semble pourtant, quand on regarde les choses de plus près, assez indubitable, puisque certains matérialistes continuent de décrire la conscience comme une illusion.
Oui.
qui semble une sorte de négation de toute pensée, de dire ça, c'est une pure contradiction dans les termes. Donc, une idée, en fait, très difficile à défendre. Mais un scientifique, dans sa spécialité, par exemple, s'il est physicien, n'est pas obligé de savoir ce qui se dit en biologie et réciproquement, si vous voulez. Donc, chacun, dans sa spécialité, peut très bien trouver des solides raisons d'être matérialiste, oui, ou d'ailleurs de ne pas l'être. Mais quand on dit qu'il y a deux visions qui s'affrontent, c'est peut-être un schéma. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours la vision matérialiste qui est dominante.
Alors, pour autant, il y a quand même des... j'en veux pour preuve la préface de votre livre signé d'Olivier Costa de Bourgard, qui est un physicien. Il y a quand même des gens qui accordent un certain crédit à une intelligence de l'univers. C'est votre cas, vous ? Est-ce que vous dialoguez avec, par exemple, Costa de Bourgard ou d'autres ?
Oui, alors effectivement, j'ai également connu Costa de Bourgard, qui est maintenant décédé, qui était un grand physicien, mais qui avait des idées que ne partageait pas la majorité de ses collègues. Hein. Donc on trouve toujours des gens qui ont des opinions différentes de la majorité. Alors, le problème est sensiblement compliqué ici par le fait que différentes disciplines scientifiques ne tirent pas du tout les mêmes conclusions du corpus scientifique disponible. Par exemple, les physiciens, dont Costa de Bourgard est un illustre représentant, ont des idées sur ce qu'on pourrait qualifier de matérialisme très différentes de celle d'un biologiste, par exemple. Autant les biologistes contemporains restent très marqués par un matérialisme classique issu, justement, de la physique du 19e siècle, autant les physiciens contemporains complètement virés de bord. Et la physique qu'ils défendent, dont le cœur est la physique quantique, aboutit à une vision dans laquelle le matérialisme classique est complètement dépassé, oui, et n'a plus cours. Donc l'idée que la matière puisse être constituée de petites billes, des corpuscules, n'est plus considéré que comme une façon de faire de la vulgarisation et de la mauvaise vulgarisation. Pas du tout l'enseignement de la physique contemporaine, ou qui a pu démontrer certaines idées qui sont totalement impensables dans le cadre du matérialisme, comme ce qu'on appelle la non-localité ou non-séparabilité, qui font que les physiciens contemporains raisonnent dans un monde véritablement totalement différent, oui, des physiciens d'époque classique.
Et qui sont la non-localité, etc. On ne peut pas l'expliquer évidemment là à nos auditeurs, mais c'est une révolution, je veux dire, une révolution dans notre mode.
Alors, c'est effectivement une révolution, mais une révolution lente, oui, révolution très lente. C'est ça qui est assez fascinant d'ailleurs, puisque dès les débuts de la physique quantique dans les années 20, cet aspect de non-localité avait été très bien repéré par Albert Einstein, qui l'avait immédiatement critiqué et qui a eu une influence extrêmement importante, hein, sur le développement de la pensée physique, hein, bien évidemment. Mais il était très opposé à la philosophie de Niels Bohr, qui était un autre fondateur de la physique quantique, et qui défendait justement ces idées non classiques et qui allaient finalement s'imposer petit à petit. Oui. Mais ça a mis beaucoup de temps. C'est-à-dire que pendant longtemps, disons des années 35 jusqu'aux années début des années 80, les physiciens, même quantiques, ne cherchait pas à approfondir ses fondements, se contentait, si je peux dire, d'utiliser la physique quantique pour expliquer tout un tas de phénomènes qui étaient mal compris encore à l'époque et qu'ils ont progressivement pu interpréter, mais sans réfléchir véritablement aux fondements de la physique quantique comme le faisaient Niels Bohr et Albert Einstein. Et ce n'est que progressivement que certaines propositions d'expérience ont pu être formulées et ont culminé justement en 1980 par des expériences célèbres maintenant, les expériences d'Alain Aspect, qui ont permis de vérifier expérimentalement que cette prédiction de non-localité était vraie et non pas simplement une simple conséquence théorique, mais non approfondie de la théorie. Et donc, Costa de Beauregard a été l'un des premiers physiciens à donner une grande importance à ces idées-là, ainsi que Bernard d'Espagna. Et Aimé Michel, je pense, a été l'un des premiers journalistes scientifiques à les vulgariser dans les années 70-80.
Alors, je vais faire le.
Maintenant, c'est devenu. C'est tarte à la crème, mais ça n'était pas à l'époque.
Est-ce que ces idées, justement. Alors, peut-être. Ça va être difficile, je sais bien, hein, mais c'est peut-être même mission impossible. Mais est-ce qu'en quelques mots, on peut expliquer à nos auditeurs ce que c'est que la non-localité ? Essayer de leur faire toucher du bout du doigt.
Ah, c'est très difficile.
C'est très difficile, je le sais.
Je peux peut-être prendre l'exemple qui avait été utilisé par Albert Einstein lui-même pour penser que la non-localité était un leurre. C'est-à-dire que dans la théorie quantique, on peut la vulgariser en disant qu'une particule de matière ou de lumière, une particule de lumière, ça s'appelle un photon se propage comme une onde, mais se manifeste toujours comme une particule. Alors, l'onde et la particule sont deux descriptions apparemment totalement opposées de la réalité. Parce que l'onde, vous voyez, vous jetez une pierre dans un étang, cela crée une onde circulaire. Donc, vous voyez que c'est un phénomène qui est répandu dans l'espace. Donc, de la même façon, une onde lumineuse émise à partir d'un point, si vous allumez une bougie quelque part, l'onde sphérique qui va se propager à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, va le faire de manière sphérique, donc dans toutes les directions de l'espace. Mais, et c'est ça qui est extrêmement bizarre, si vous interposez un obstacle, votre œil par exemple, eh bien, le photon va se manifester sous forme d'une particule dans votre œil, et pas sous forme d'une onde. Autant l'onde est répandue partout, autant la particule va se manifester en un seul point. Et c'est ça la grande difficulté. Comment comprendre, se demandait Einstein, comment sait-il que toutes les parties de l'onde lumineuse peuvent être répandues sur un très grand rayon, hein, si c'est la lumière émise par une étoile, par exemple, à plusieurs centaines, voire milliers d'années-lumière de nous, va-t-elle pouvoir informer un endroit de l'onde que toute l'énergie dispersée partout dans l'onde va se manifester uniquement en un seul point. Et c'est ça le problème de la non-localité. Vous voyez que c'est une sorte d'opposition incroyable, si vous voulez, mais dont on a pu démontrer qu'elle était, de manière expérimentale, que dans toutes ses conséquences, eh bien, qu'effectivement, les choses se passaient de cette façon suivante, comme si l'espace n'existait pas, si vous voulez. Et donc, deux photons séparés par des milliers d'années-lumière, en fait, quand on fait une expérience dans un laboratoire, évidemment, c'est de quelques dizaines de mètres, ou voire de quelques kilomètres au plus, hein, mais ça ne fait rien, finalement, peuvent se comporter comme si l'espace qui les séparait n'existait pas. C'est ça qu'on appelle
c'est
la
fabuleux.
Séparabilité ou non-localité.
C'est fabuleux, c'est de la magie. Enfin, c'est-à-dire, on renoue avec une vision absolument merveilleuse, finalement, du...
Voilà, ça semble de la magie, mais
c'est de
la pure et simple physique expérimentale, parfaitement démontrée et manipulable en laboratoire.
Ouais.
Cela rejoint tout à fait ce que je vous disais depuis le début, en fait, que toutes les idées d'Aimé Michel sont toujours de cet acabit-là, c'est-à-dire de faire simplement ressortir ce que les scientifiques savent, mais souvent de façon dispersée, suivant des disciplines qui communiquent mal entre elles, comme la biologie et la physique quantique, par exemple, ou la psychologie et la physique, etc., peuvent nourrir une pensée que l'on peut qualifier, si on le souhaite, de fantastique,
ouais,
qui est tout simplement la description scientifique du monde.
Ouais. Il nous reste 10 minutes. Je voudrais quand même qu'on parle d'ufologie des ovnis, parce qu'il a une place, me semble-t-il, importante, Aimé Michel, dans l'étude des ovnis depuis, sans doute, son livre « Mystérieux objets célestes » que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est un livre remarquable qui permet de découvrir ce qu'on a complètement oublié, c'est la vague d'observation d'OVNI de 1954 en France et ailleurs d'ailleurs en Europe, qui est absolument inouïe, extraordinaire. C'est quelqu'un qui a aussi pensé les OVNI, qui ne s'est pas contenté finalement de répertorier les observations, etc. Il a pensé cette question.
Alors absolument. Alors, vous décrivez très bien son attitude. Alors, il a fait deux choses, en fait. La première, c'est que il a tout de suite pris au sérieux ces histoires de soucoupes volantes, à la différence de la plupart de ses contemporains qui prenaient ça à la grosse rigolade. Lui, pas. Donc, il a toujours été très respectueux de ce point de vue-là, du témoignage humain, etc., de ce que les gens pouvaient dire, raconter, en particulier lorsqu'il disait avoir vu ces fameuses soucoupes. Donc il a essayé de donner un contenu scientifique à cette étude. Et il pensait avoir trouvé le moyen de le faire en pointant sur une carte les observations faites à l'automne 1954. Et il avait constaté que les points d'observation s'alignaient sur une carte. Alors il y avait des alignements de 3 points, 4 points, 5 points et jusqu'à 6 points. Alors ça l'avait extrêmement frappé et évidemment extrêmement motivé à le faire savoir et à s'ingénier aussi à ce que des scientifiques s'en occupent. Malheureusement, alors ça a mal tourné, si je peux dire, dans la suite des temps, parce qu'on a pu montrer que tous les alignements de 3, 4, voire 5 points pouvaient fort bien s'expliquer par le hasard. Quant à l'alignement de 6 points qui n'aurait pas dû exister, en fait, par le hasard, là c'était vraiment trop lui demander, en réalité, les points en question n'étaient pas de la même journée, en fait, parce que il avait utilisé des articles de presse qui dataient mal les observations, et donc sa restriction aux observations d'une même journée pour découvrir les alignements ne s'est pas trouvé conforté.
Oui.
Donc je veux dire qu'il en a été sans doute assez affecté, d'autant que la suite des événements n'a pas contribué à rendre le problème des ovnis véritablement scientifiquement étudiable.
Oui.
En réalité, on continue à vasouiller dans son étude. C'est souvent parce que on s'y prend mal, mais enfin bon, le fait est qu'on n'a pas beaucoup progressé. Et Aimé Michel s'est donc, surtout à la fin de sa vie, détaché complètement de ce sujet, et il était assez inquiet. Dans le dernier entretien que j'ai lu avec lui là-dessus, quelques mois avant sa mort, il était inquiet d'avoir déclenché une trop grande attention à ce problème qui se révélait scientifiquement très difficile, voire impossible à étudier. Et c'était ça son dernier avis sur la question. Et donc, il finissait par penser que c'était presque une mauvaise action qu'il avait commise. Donc vous voyez...
Relation complexe au phénomène OVNI.
Toujours, oui, une relation qui était devenue assez complexe. Mais alors, il y a un deuxième aspect de sa pensée qui n'a jamais renié, par contre. Hein. C'était d'avoir pensé ce qu'il appelait, lui, une ufologie sans OVNI. C'est-à-dire que même si les OVNI n'avaient pas existé, il aurait quand même développé à peu près la même pensée sur le sujet que celle qu'il a effectivement présentée dans de multiples articles, surtout dans les années 70-80. Et cette idée était que, encore une fois, il ne voyait absolument aucune raison scientifique de penser que la vie ne puisse pas être répandue à profusion dans l'univers. Alors, il existe une centaine de milliards d'étoiles dans notre galaxie, et dans l'univers visible, il existe une centaine de milliards de galaxies. Donc, vous voyez un nombre très grand, et on le sait maintenant, que en moyenne, toutes les étoiles de notre galaxie ont en moyenne une planète, et on a pu calculer que, sur les dernières statistiques, que 20% des étoiles de notre galaxie avaient une planète située à une distance correcte de leur étoile, où l'eau pouvait exister sous forme liquide. Ouais. Autrement dit, des planètes où la vie pouvait se développer. Donc, encore une fois, les idées contemporaines ne font qu'en confirmer ce qu'il disait il y a 30 ans ou 50 ans, que le miracle, ce serait que la vie n'existe que sur Terre. Ouais. Quoi.
Et ouais. On parle de banalité, d'ailleurs, à propos, maintenant. Hein. La vie semble peut-être un phénomène...
Il a utilisé le premier ce terme. Il appelait ça le principe de banalité.
Ouais.
Principe de banalité. Donc, la vie est répandue dans l'univers à profusion, et probablement l'intelligence aussi. Alors, il n'était pas très spécifique sur le nombre de planètes pensantes dans notre galaxie. Hein. Ça, je n'ai jamais entendu soutenir la moindre valeur précise. Mais ce qui lui importait, c'est le principe. Dans le principe, si vous voulez, qui reste la pensée la plus naturelle de nos jours, c'est que la vie et l'intelligence devraient être répandues donc à profusion dans l'univers.
Bon. Finalement, les ovnis ne devraient n'étonner personne aujourd'hui, non ?
Alors voilà, donc il n'y a pas de raison d'exclure que l'on puisse être visité ou observé par des êtres extraterrestres. Alors là aussi, il faut bien voir qu'il ne se restreignait jamais à la physique présente. Hein. Donc... pour lui, il était exclu, évidemment, que ces visiteurs extraterrestres utilisent des fusées pour le visiter. Ça, c'est
tout à fait, hein, oui, il avait...
Donc, forcément, ce serait pratiquement sûrement une physique que nous ne connaissons pas encore. Mais tout ça, c'est une sorte de spéculation assez naturelle. C'est-à-dire que nous ne savons pas voyager entre les étoiles. On peut imaginer des moyens de le faire. Certaines ont été proposées, ce sera peut-être réalisable dans un avenir pas trop éloigné éventuellement, surtout si on n'envoie pas des êtres, si on ne voyage pas nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire si les astronefs sont suffisamment petits, on pourrait effectivement envisager d'en envoyer des sondes très petites à très grande distance sans dépenser une énergie trop considérable dans le cadre... peut-être de la physique connue. Bon, enfin, refermons cette parenthèse. Donc, encore une fois, ce qu'il créait, c'était un univers conceptuel, à la fois physique, biologique et, disons, spirituel, intelligent, bien qu'il fasse la distinction nette entre l'intelligence et la spiritualité, mais enfin, c'est un autre problème, dans lequel... l'idée que nous ne soyons pas seuls et que même nous soyons dépassés déjà par d'autres êtres vivants et pensants dans l'univers était à ses yeux probable. Donc, en regardant les étoiles, si vous voulez, il y voyait éventuellement, par la pensée, notre avenir. C'est-à-dire que là-haut gravitent des êtres pensants qui peuvent avoir sur nous une avance de... Tout est à l'échelle cosmique ici.
Si on renvoie des milliers d'années, voire peut-être milliards. Si on renvoie, je crois, les gens au calendrier astronomique de Carl Sagan, une planète qui serait née un jour plus tôt que la Terre aurait, je crois que c'est 4 millions d'années, effectivement, d'avance sur nous, ce qui est évidemment inimaginable, mais voilà.
Absolument, oui. C'est-à-dire qu'à l'échelle cosmique, très rapidement, les durées impliquées deviennent énormes, hein, bien sûr.
Jean-Pierre Rospart, on arrive au terme de cette émission. Je voulais vous remercier d'avoir pris autant de temps pour nous expliquer qui était Aimé Michel. Le livre est énorme, donc il faut le lire. On n'a pas eu le temps, mais très très loin de là, de tout aborder.
Ah oui,
il faut donc lire ce livre. La clarté au cœur du labyrinthe, chronique sur la science et la religion. Des textes choisis, présentés et annotés par vous-même, Jean-Pierre Rospart, avec une préface de Olivier Costa de Bourgard, et c'est publié aux éditions Aldan.
Sans oublier le second volume, en quelque sorte, qui est une correspondance avec Bertrand Méheux.
Avec Bertrand Méheux, oui.
Et qui présente les mêmes idées dans un style très très différent, oui. Mais qui peut également intéresser certains lecteurs.
Oui, l'apocalypse molle.
L'apocalypse molle, ouais. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Et les programmes de Radio Grand Ciel, évidemment, se poursuivent.
Avec ton enfant sous ta chemise, les épaules nues, couvertes d'or, pour plaire à ton Dieu, tu danses encore. La rivière coule au pied du temple de l'aurore. Personne ne pleure, ni ne se plaint. La nuit, les rues sont chaudes, les enfants jouent avec leurs grands yeux sans paupières, leur peau bronzée, leur ventre clair, la rivière coule au pied du grand Bouddha de pierre. Royaume de Siam, chemin qui mène au peuple heureux. Royaume de Siam, celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là. Peut-être il peut être heureux. Je t'ai vu dans la cité étrange, porte du ciel, ville des anges, avec l'amour, la liberté. Mange la mangue et bois le thé, ta rivière coulera sans s'arrêter. Siam, chemin qui mène au peuple heureux, royaume de Siam, celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être, il peut être heureux. Je t'ai revu dans la rue, assise avec ton enfant. Sous ta chemise, les épaules nues, couvertes d'or. Tu danses toujours, tu danses encore. La rivière coule au pied du temple de l'aurore. Royaume de Siam, chemin qui mène au peuple heureux. Royaume de Siam, celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être, il peut être heureux. Celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être.